L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
C'est bien un sujet qui peut animer un dîner, voire l'enflammer. C'est bien évidemment la politique, mais aussi la politique des transports. Aujourd'hui, on sait que les transports, c'est un énorme problème de carbonation de notre société, évidemment. Et en même temps, on ne sait pas du tout comment prendre de la hauteur sur ce sujet et comment l'analyser. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Aurélien Bigot, qui est un jeune chercheur, sans doute le chercheur le plus intéressant de sa génération sur la transition énergétique des transports. Et avec Aurélien, on va parler d'énormément de sujets. J'ai essayé de traiter au plus possible, parce que ça nous touche tous au quotidien. Donc on va parler évidemment des voitures, on va parler de l'avion, on va parler de la moto, on va parler des scooters, on va parler des trottinettes, on va parler du train, on va parler des moyens de locomotion lents, on va parler de la marche, évidemment. Mais aussi, on va parler de l'organisation de notre société. Bref, vous allez voir, c'est une conversation qui est hyper intéressante, très accessible évidemment, comme toujours, j'essaye. Je vous laisse l'écouter. Allez, Volan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Comment tu vas aujourd'hui?
Très bien, et toi?
Pas mal du tout, je te remercie. Peut-être la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir, on en est où de la stratégie bas carbone aujourd'hui en France?
Oui, alors la stratégie nationale bas carbone, c'est un document en France qui représente la stratégie climat du gouvernement actuellement. Sur le secteur des transports, il y a un objectif qui est ambitieux à l'horizon 2050. En gros, c'est d'arriver à quasiment zéro émission directe dans le secteur des transports. Donc les émissions directes, c'est les émissions en sortie de pots d'échappement des véhicules, en gros. Et ça implique notamment que dans l'ensemble des transports terrestres, ils soient complètement décarbonés en 2050. Donc qu'il n'y ait plus une seule goutte de pétrole, aussi bien dans les voitures, dans les poids lourds, les véhicules utiles, utilitaires légers, les bus, les cars, les trains, les deux roues motorisées ou encore les bateaux de transport fluvial. Donc on est sur un défi qui est majeur en l'espace de 28 ans. Désormais, on doit sortir du pétrole pour tous ces modes de transport-là, alors qu'aujourd'hui, le pétrole, c'est plus de 90% des consommations d'énergie du secteur. Donc c'est vraiment le carburant de la mobilité, le carburant des transports.
La première question qui me vient, c'est est-ce que c'est le bon combat? Parce qu'en fait, je me dis, enfin, plusieurs choses. D'abord, je me dis, et j'ai posé aussi des questions très basiques finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas garder une voiture qui existe déjà, qui n'est pas électrique, versus une voiture électrique? Parce qu'en fait, une voiture électrique, il faut la produire, donc ça nécessite de l'énergie. Enfin, je veux dire, une voiture, pour la produire, il faut quand même de l'énergie.
Ouais.
Elle va pas se transformer, enfin, l'acier ne va pas se transformer en voiture tout seul. Tous les éléments qui sont à l'intérieur de la même manière. Donc déjà, j'ai cette première question. Est-ce que c'est un bon combat? Par ailleurs, toi, tu parles, ce que tu dis, c'est que c'est émission directe, mais du coup, il y a une problématique d'émission indirecte qui est pas très bien comprise, j'ai l'impression, des personnes qui écoutent, enfin, pas les personnes qui écoutent, mais en tout cas, des personnes de manière générale. J'ai l'impression qu'on s'arrête à la voiture électrique et on réfléchit pas vraiment d'où vient cette électricité et du coup, l'impact que a cette électricité. La première... Deuxième, du coup, question, ça serait, est-ce que c'est un bon combat? Est-ce que c'est le bon combat, selon toi?
Alors, bon combat, je dirais oui, parce que c'est le combat du changement climatique. En gros, si on ne sort pas des énergies fossiles de manière générale, on ne réussira pas à atteindre nos objectifs climatiques. Donc, on s'oriente vers un réchauffement de plus 2, plus 3, plus 4, voilà, selon à quel point on continue à beaucoup consommer d'énergie fossile. Donc, ça implique que dans les transports, notamment, il faut sortir du pétrole. Ça, c'est un incontournable si on veut réduire les émissions et réduire l'impact des transports sur le climat. Après, pour autant, ce n'est pas le seul des combats. Et par exemple, en effet, la voiture électrique, par exemple, ne résout pas le problème du climat pour les transports sans revoir plus globalement de quelle manière on se déplace, comment on change aussi le transport de marchandises. Donc il y a d'autres, si on cite un peu les autres combats qu'il peut y avoir, disons, sur les transports, il y a des problématiques de pollution de l'air aussi. Donc ça, le fait de passer, par exemple, à l'électrique ou le fait de se séparer du pétrole, c'est quand même... Ça va dans le bon sens aussi sur la pollution de l'air, parce que la plupart des émissions aujourd'hui viennent de l'échappement des véhicules aussi, de la combustion du pétrole. Après, il y a aussi des enjeux en termes de consommation de ressources. Le pétrole, de toute façon, il faut aussi s'en séparer pour des questions d'épuisement des ressources ou de contraintes de manière générale qu'on a déjà depuis pas mal d'années sur les approvisionnements en pétrole, sur le coût du pétrole et puis les contraintes...
Et puis la dépendance géopolitique aussi.
Les dépendances géopolitiques qu'il y a en lien avec ça. Après, il y a des enjeux en termes de consommation d'espace aussi. Les infrastructures de transport, ça prend beaucoup de place. Ça fragmente aussi les paysages ou les espaces naturels. Et du coup, ça a des impacts aussi sur la biodiversité par ce biais-là. La voiture prend particulièrement de place aussi en circulation, aussi en stationnement. Du coup, il y a énormément d'espace public qui lui est dédié, notamment dans les villes. Et ça veut dire que ça, si on veut rééquilibrer l'espace public pour donner plus de place à d'autres modes de transport, la marche, le vélo, les transports en commun, il faut prendre de la place à la voiture. Et potentiellement, ça peut être aussi de penser l'espace public pour autre chose qu'uniquement des fonctions de circulation, des fonctions de transport, mais par exemple pour les terrasses, pour donner de la place aux enfants, pour circuler en sécurité en ville, pour jouer, etc. Aussi redonner de la place à davantage de végétalisation pour mieux s'adapter au changement climatique, aux vagues de chaleur, etc. Tout ça, ça interroge l'usage de l'espace public. Et donc ça, c'est une question majeure où ça demande d'interroger la place qu'on donne à la voiture et du coup, quelle place aussi a la voiture dans nos mobilités. Ensuite, il y a des enjeux aussi en termes de pollution sonore. Ça, c'est quelque chose, c'est une thématique qu'on aborde assez peu en général. Pourtant, il y a bien évidemment des choses qu'on connaît de gènes liés au bruit, de stress que ça peut engendrer, de problèmes auditifs qu'il peut y avoir, mais il y a aussi des problèmes de santé plus globaux qui sont aussi liés à la pollution sonore. Donc, c'est vraiment une vraie pollution dans le sens où ça a vraiment des impacts sur la santé en termes d'obésité, en termes de maladies cardiovasculaires qu'il peut y avoir aussi via cette pollution sonore. Non, mais... il y a des enjeux en termes de santé publique, aussi en termes d'activité physique, de sédentarité, ou plutôt d'inactivité physique. En gros, on a 95% de la population française qui a des niveaux de sédentarité ou d'inactivité physique qui présentent des risques pour la santé, dans le sens où on n'est pas assez actif. Et ça, c'est lié à nos modes de vie de manière générale. On est trop souvent globalement assis, que ce soit devant un écran pour le boulot, que ce soit devant un écran pour regarder la télé, l'ordinateur, etc. Ou que ce soit dans nos mobilités, avec notamment la voiture qui domine et qui est un mode de transport inactif. Et donc retrouver par exemple des mobilités plus actives telles que la marche et le vélo, ou dans une moindre mesure aussi les transports en commun qui souvent nécessitent d'aller jusqu'à une station, plus souvent à pied, etc. Ou qui